Bah, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. Je ne compte plus le nombre de fois hein, que je suis intervenu pour l'IHEMR, mais c'est toujours un grand plaisir, même si c'est bon, malheureusement par visioconférence. Comme Xavier vous l'a dit, hein, la faculté a fermé ses portes suite à ce deuxième confinement. Donc voilà, vous ne vous retrouvez pas chez moi à la faculté, mais d'une certaine façon chez moi directement. Bon, on va essayer de fonctionner aussi bien que possible. Ça devrait bien se passer. Ça fait depuis maintenant le mois de mars pratiquement que j'enseigne constamment par Internet. Donc c'est devenu un peu une habitude et c'est relativement agréable, même si solution. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle, c'est le titre que j'ai repris, hein, l'Europe des réformes, et aussi de la question de la modernité religieuse, parce que pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est au XIXe siècle, l'association qui allait de soi entre le protestantisme, la réforme protestante du XVIe siècle et la modernité telle qu'on la concevait à l'époque hein, et qu'on la conçoit partiellement encore aujourd'hui, à savoir la démocratie, le développement des sciences, la liberté individuelle concernant les questions religieuses, etc. Et puis cette approche qui était largement due à des protestants, hein, bien évidemment, parce qu'il y avait aussi la volonté de l'athéisme, cette approche, elle a été progressivement mise de côté, contredite, abandonnée. Et une des raisons qui font que ça a été mis de côté, c'est le fait qu'au fond, on a découvert, ou on a redécouvert, ou on a mis en évidence plutôt, pour être plus précis, le fait que, eh bien, au fond du XVIe siècle, il n'y a pas que le développement de la réforme protestante, mais au fond, il y a tout un mouvement religieux de réforme au pluriel qui s'exprime au XVIe siècle. Il y a la réforme protestante, mais cette réforme protestante, elle est elle-même multiple. Vous avez le luthéranisme, vous avez le calvinisme, vous avez les réformes telles qu'elles se développent en Angleterre également. Ce sont tous des modèles de réformes qui sont liés, mais qui ne sont pas identiques. De ces réformes classiques, pour le dire comme ça, toute une série de réformes, à commencer par l'Église catholique elle-même, qui met au XVIe siècle, à l'ordre du jour, sa propre réforme. Et on ne peut pas dissocier la réforme catholique des réformes protestante, selon une logique qui est plutôt celle réforme et contre-réforme protestante dans la réforme catholique, le Concile de Trente, etc. Mais il y a aussi et surtout la volonté de prendre en compte le fait que ben, s'il y a eu la réforme protestante, s'il y a eu cette rupture de l'unité de la chrétienté occidentale, c'est parce que il y avait des réformes qui n'avaient pas été faites. Et donc l'Église a fait une forme d'aggiornamento, on peut le dire. Et puis vous avez à côté encore de toutes ces réformes-là, toute une série de réformes qu'on peut qualifier de plus marginales parce qu'elles concernent moins de monde, mais au fond, l'émergence de tout un tas de mouvements religieux qui, pour beaucoup, vont exister jusqu'à nos jours. Hein, je pense par exemple aux anabaptistes, les mennonites, qui existent aujourd'hui. Il y a des communautés mennonites en France, encore de nos jours. Vous avez le mouvement des antitrinitaires, donc qui refusent le dogme chrétien de la Trinité, qui s'inscrit dans ce processus de critique, disons, de l'Église médiévale, et qui va s'installer principalement dans les pays de l'Est, Pologne et Hongrie, etc., etc. Donc en fait, si on veut penser la question de la modernité religieuse par rapport à ce qui se passe au XVIe siècle, il faut tenir compte de cette diversité. Et on ne peut pas dire protestantisme qui est la seule et unique matrice de la réforme, de la modernité religieuse. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe au XVIe siècle, il faut s'intéresser au climat, si vous voulez, qui est celui dans lequel va émerger ce grand mouvement de réforme au pluriel. Ce contexte, au fond, il est marqué par toute une série de crises d'ordre divers. Hein. Nous traversons un temps de crise, ça n'aura échappé à personne. Eh bien, le XVIe siècle, c'est aussi un temps de crise extrêmement violente et extrêmement dure. Vous avez d'abord une crise démographique qui est liée au fait que, enfin, disons, qui est liée à plusieurs facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est un facteur climatique. Vous verrez que beaucoup de choses que je vais dire maintenant font écho historiquement à notre situation, quoique un peu différemment, bien sûr. Premier facteur, donc, crise climatique. Le problème à la fin du XVIe siècle, à la fin du Moyen-Âge, pardon, du point de vue climatique, ce n'est pas le réchauffement, c'est le refroidissement. On entre, avec le XIVe et le XVe siècle, dans ce que les historiens du climat, comme Emmanuel Leroy-Ladurie, ont appelé le petit âge glaciaire de l'Europe. Il fait plus froid, donc il y a moins de récoltes, il pleut plus, donc les récoltes sont plus facilement gâtées, et ça a comme conséquence que vous avez des pénuries de blé et donc des famines d'une violence absolument inouïe. Vous avez aussi toute une série de guerres qui déchirent l'Europe. On sort de la guerre de 30 ans pour entrer dans toute une série d'autres guerres plus locales. En Angleterre, la guerre des Deux Roses qui va conduire à l'avènement de la famille Tudor, etc., etc. Vous avez les guerres d'Italie aussi, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui ravagent elles aussi toutes ces régions et qui donc bien évidemment entraînent des morts, des pénuries alimentaires, etc. Et puis vous avez un phénomène qui lui aussi fait écho à notre situation contemporaine, c'est la question des épidémies, et en particulier des épidémies de peste, hein, au milieu du XIVe siècle, la grande peste noire, comme on l'a appelée, qui n'était pas inconnue en Europe. Hein, on a des épidémies de peste en Europe. Chaque fois, ces épidémies viennent d'Asie, là non plus, hein, rien de nouveau sous le soleil, et donc, cette grande épidémie de peste du milieu du XIVe siècle, 1347, 1352, 3 selon les pays, on estime aujourd'hui, et ça fait frémir, même dans la situation actuelle, qu'elle tue environ la moitié de la population européenne selon les pays. Hein. Vous avez des villes, et encore plus des villages, qui sont tout simplement rayés de la carte à cette époque-là par cette maladie. Et des historiens ont travaillé d'ailleurs la question du traumatisme lié à cette épidémie de peste, et on retrouve des témoignages liés à cette épidémie, jusque l'air qui avait connu la grande peste, etc. Ce qui se passe au début du XVIe siècle, fin XVe, début XVIe siècle, c'est qu'au fond, la peste reste endémique, c'est-à-dire qu'elle revient comme ça de manière périodique, si vous voulez, mais tout en étant périodique, elle est au fond il y a une concurrence avec une autre maladie émergente à cette époque-là qui est le choléra. Donc entre la peste et le choléra, d'où la fameuse expression, hein, on est en Europe constamment sous cette au fond pression épidémique qui va rester une réalité jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Et il suffit de faire la liste de tous les... j'ai fait l'exercice pour mes étudiants l'autre jour, de tous les théologiens du siècle qui meurent de la peste et ou d'une autre épidémie, et on se rend compte à quel point c'est une réalité qui est importante. Et assez logiquement aussi, vous retrouvez sous la plume des grands réformateurs, Luther et d'autres, des réflexions sur ce qu'il faut faire face aux épidémies. Crise sociale, c'est lié à ce que je viens de dire, je serai un peu plus rapide là-dessus, parce que vous avez une situation démographique catastrophique avec des morts, etc. Bien évidemment, et en particulier des familles, vous avez un appauvrissement général de la population, et ça aussi c'est une réalité extrêmement forte. On en retrouve des éléments lorsque l'on s'intéresse à la réforme, et en particulier à ce que l'on va appeler la guerre des paysans de 1525, qui voit les paysans prendre les armes et tuer leur suzerain, hein, leur seigneur. Et ils le font au nom d'une situation qui est catastrophique, là nouveau épidémie, pénurie, etc., mais en se réclamant cette fois de la réforme et de Luther. Et donc, vous avez une politisation aussi dans certaines circonstances catastrophiques, qui d'ailleurs fait que beaucoup de réformateurs, que ce soit Luther, Calvin ou d'autres, s'intéressent aux questions économiques et sociales et prennent des positions parfois assez neuves. Calvin, par exemple, sur le prêt à intérêt, on pourra y revenir si vous voulez par la suite. Crise politique, bon, je dirais, ça c'est plus constant hein, dans la situation du XVIe siècle. Bien évidemment, vous avez toute une série, là encore, de guerres, je les ai mentionnées, en Angleterre, en Italie, etc. Pour ça, il faut surtout relever, c'est les deux derniers points, crise institutionnelle et crise religieuse, parce que ça joue bien évidemment un rôle dans le cadre de ce qui va amener à la réforme. Crise institutionnelle, quand je parle de crise institutionnelle, je parle de la crise que traverse à cette époque-là l'Église catholique. Je dis catholique, mais Église tout court, parce que, et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, l'Occident chrétien, jusqu'à la réforme protestante, l'Occident chrétien latin, l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, est unifié sur le plan religieux. Vous n'avez pas de divergence, de différence aujourd'hui. Cette institution religieuse, donc, tout le monde y appartient. Ce qui fait l'identité première d'une personne au Moyen-Âge, c'est son appartenance à l'Église chrétienne latine. Donc, la différencier de la grecque, qui est le plus représentée dans l'Est. Tout le monde fait partie de cette Église unifiée, avec une exception, bien sûr, sur laquelle je ne peux pas m'arrêter, mais qui est extrêmement importante et intéressante, qui sont les communautés juives qui existent déjà en Europe, mais qui, si vous voulez, la plupart du temps, au XVIe siècle en tout cas, sont cantonnées dans... C'est une ultra-minorité par rapport à une Europe qui est tout entière chrétienne. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner, parce que c'est déjà un des éléments sur lesquels on pourra revenir, de ce que va amener la réforme, sans le vouloir, mais qui sera extrêmement important, à savoir la diversité religieuse, la pluralité religieuse en Europe, de l'Ouest, mais même plus largement en Europe, c'est le fait de la réforme protestante. Avec l'émergence de la réforme protestante, avec ça elle-même, cette émergence de la réforme crée la pluralité religieuse en Europe et la nécessité de penser cette pluralité religieuse, ce qui va conduire, mais beaucoup plus tard, on pourra aussi y revenir si vous le voulez, la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté ou en tout cas d'expression religieuse. Ça, c'est une des conséquences de la réforme, une des conséquences qui n'est absolument pas voulue par les réformateurs, hein, ça, on pourra aussi en discuter si vous le souhaitez. Ce ne sont pas des gens qui sont ouverts, si vous voulez, sur la diversité religieuse, ça n'est pas dans leur logiciel, mais en revanche, c'est une des conséquences de leur émergence. Et contribuer à la remise en cause de l'unité de la chrétienté occidentale, et ça c'est un autre élément qu'il faut introduire ici, c'est sur les frontières est de l'Europe, sud-est, la pression turque et musulmane. Là aussi, vous voyez, on est dans des sujets qui résonnent une actualité extrêmement douloureuse, mais c'est important de, précisément, je pense, de le souligner, le XVIe siècle, en tout cas la première partie du XVIe siècle, c'est la grande phase d'expansion de l'islam et via plutôt le pouvoir et le pouvoir turc, le pouvoir ottoman, dans l'Est. Je l'ai fait d'ailleurs pour un livre qui devrait paraître bientôt sur les rapports entre protestantisme et islam à l'époque moderne. On pourrait bien évidemment faire faire, au fond, une histoire parallèle. Hein, les moments importants de l'histoire de la réforme d'un côté et les moments importants de l'histoire de la conquête de l'Europe par l'Empire ottoman de l'autre. Hein. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et qui entre dans l'identité, je dirais, européenne, à la fois cette diversité intérieure au christianisme, mais aussi le fait qu'à l'extérieur, ben, il est aussi obligé progressivement d'envisager la relation avec une autre religion qui est à ce moment-là, enfin qui est l'islam. Et donc là aussi, notre modernité relise de la fin du 15e siècle, début du 16e siècle. Et cette crise est d'autant plus forte que l'institution qui incarne cette unité de l'Église, eh bien, elle est en crise depuis plusieurs siècles déjà, au moment où Luther émerge sur la scène religieuse occidentale, puisque vous avez un schisme hein, qui a vu au fond l'Église d'Occident se scinder en deux, puis en trois, en fonction de son allégeance ou de l'allégeance des différents territoires européens à l'un ou l'autre des papes qui se disputaient à ce moment-là la souveraineté sur l'Église. Et ce grand schisme qui fait qu'à la tête de l'Église, vous n'avez pas pape, va être extrêmement dur d'un point de vue des représentations, du point de vue des représentations religieuses au XVIe siècle, pour une raison assez simple qui est liée en fait à la situation, la conception que l'on se fait de l'Église. L'Église médiévale se conçoit comme une institution de salut qui, au fond, permet, en dispensant les sacrements aux fidèles, de rendre possible le lien entre le croyant et Dieu via donc, les sacrements dans la perspective du salut. Le discours de l'Église à cette époque-là, c'est de dire vous ne parvenez au salut que par la dispensation des sacrements par l'Église. Et cette théologie-là, qui est datable, hein, elle n'est pas disons, présente depuis toujours dans le christianisme, elle se développe petit à petit, eh bien cette théologie-là, elle repose sur le lien unique qui existe entre le pape et le Christ. C'est d'ailleurs pour ça que le pape, à partir du XIIIe siècle, est le vicaire du Christ. Il est le remplaçant du Christ sur terre et il est celui qui assure le lien avec l'Église triomphante et avec Dieu. Et c'est donc par lui, par sa fonction, par sa personne, que au fond, le lien se fait entre les croyants d'une part et d'autre part le salut et Dieu. Ce titre de vicaire du Christ, chaque évêque était au fond un petit vicaire du Christ dans sa paroisse, dans son évêché, dans sa paroisse, puisqu'on parlait de paroisse aussi à l'époque, si vous finissez un évêché. Donc, ça a été changé, ça a évolué. Et donc, bien évidemment, quand vous avez un seul vicaire du Christ, qui est la seule tête de l'Église, ça va. Mais quand il y en a deux qui se disputent le pouvoir, puis qu'il y en a trois, immédiatement, parce que est-ce que je suis du même? Est-ce que j'appartiens à la bonne communauté, au fond, qui suit le bon vicaire du Christ? Ou est-ce que je ne suis pas du côté du mauvais? Et il faut tout de suite introduire ici un autre élément qui est important pour comprendre ce que c'est que la représentation du monde que se font les médiévaux. On considère que vérité et unité vont de pair. Aujourd'hui, la pluralité des points de vue, c'est quelque chose d'acquis, pas par tout le monde, mais enfin, globalement, quand on discute, on considère qu'on a le droit d'avoir des points de vue différents et que la vérité, ben, elle est peut-être entre les deux. C'est la logique du pluralisme contemporain. Mais au début du XVIe siècle, on considère qu'il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Et que donc, s'il y a un désaccord sur quelque chose, c'est qu'il y en a un des deux qui est dans l'erreur. Et quand il en va des questions religieuses, on considère à cette époque que s'il y a division, c'est l'œuvre du diviseur, le diabolos, hein, en grec, le diable. Ça signifie que pour beaucoup de commentateurs, acteur de la situation médiévale et du branchisme, le diable s'est introduit dans l'Église. Et vous avez donc une crise institutionnelle qui est immédiatement, les points que je veux mettre en avant, avec cette idée prégnante de l'époque qu'on est dans une période, là de nouveau, pas grand-chose de neuf, hein, une période de décadence. Décadence de l'Église, décadence de la chrétienté, décadence de l'Europe, et donc que fin des temps n'est pas très éloignée. Là aussi, vous voyez, un sentiment de collapsologie qui s'est installé dans cette Europe médiévale. Luther lui-même, le principal, le premier des réformateurs protestants, estimait que la fin du monde était proche. Il pensait que de son vivant, il verrait la fin du monde et le jugement dernier. Ça n'a pas été le cas. Ça fait partie de l'ambiance générale que l'on connaît à cette époque-là. Et qui est liée à cet ensemble aussi. Hein, tout ça est interconnecté, bien évidemment, dans l'imaginaire de l'époque. Je vous ai mis ici ce tableau des très riches heures du duc de Berry. Hein. Enfin, ce n'est pas un tableau, c'est une miniature. Cette miniature, elle représente l'enfer. Et ça, c'est une thématique qui est très importante, qui devient très importante à partir du 13e, du 14e, pardon, du 15e siècle. Donc ça, c'est vers 1415. C'est une date tout à fait intéressante parce que c'est le moment du concile de Constance où on essaye de solder le grand schisme. Et vous voyez que dans l'imaginaire de l'époque, apparaît un intérêt de plus en plus certain pour l'au-delà. Ça, c'est pas neuf, mais l'au-delà dans son versant négatif. Hein. Et donc là, vous voyez, c'est l'enfer. Donc vous avez Satan qui est couché sur un brasier, hein, et qui mange les âmes des défunts qui tombent en enfer. Là, pendant qu'autour se passent toutes sortes de choses, et en particulier des diables qui chevauchent à gauche sur l'image, qui chevauchent des prêtres, qui découpent des êtres humains, etc. Tout ça, c'est neuf, si je puis dire, à l'époque, et ça témoigne de l'angoisse latente qui est très forte devant la mort, devant le danger, disons, qui est multiple, les guerres, les invasions, les famines, les épidémies, etc. Mais aussi, d'une certaine façon, devant le fait que l'on n'est plus confiant dans le fait que l'Église, finalement, répond à une nécessité, disons, en mesure d'offrir une réponse à cette situation telle qu'on se la représente là. J'aurais pu aussi vous mettre une autre illustration, ça n'est pas, je ne l'ai pas fait, qui est celle des danses macabres, hein, où vous avez la mort qui entraîne ici un magistrat, là un boulanger, ici un prêtre, là un prince, l'empereur, etc. Et qui montre au fond, qui matérialise dans la représentation du temps et de la vie, la présence de cette mort qui finalement emporte tout le monde. Hein. C'est la grande faucheuse, hein, et c'est lié aussi à l'imaginaire de la peste, puisqu'on représente la peste comme cette grande faucheuse et finalement comme la mort. Hein. Les deux vont se connecter dans l'esprit du temps. Et donc ça, c'est un autre élément extrêmement, disons, net de cette représentation, qui a été très bien mise en évidence par du Moyen-Âge, dans un livre déjà ancien, des années 1940, et dans lequel il étudie ce changement complet dans la peinture occidentale, où vous passez d'une représentation des êtres qui est, au fond, celle de la beauté, de l'élégance, etc., à une insistance de plus en plus forte des chairs, sur la décomposition même. Hein. Il y a ce souci-là aussi dans bien des tableaux qui nous sont restés de cette époque et qui témoignent de cette évolution des mentalités à cette époque-là. Alors, je vous ai mis ici donc le portrait du sultan Mehmed II le sultan. Donc, celui qui, en 1453, a conquis Constantinople, hein, la capitale de l'Empire romain d'Orient, et qui a donc mis fin, au fond, à cet empire qui était l'héritier de l'Empire romain, le continuateur de l'Empire romain, et qui a repris, du coup, pour lui-même, la titulature. Dès qu'il a conquis Constantinople, Mehmed II renvoie la couronne impériale byzantine au pape de Rome en disant: j'en ai plus besoin, il n'y a plus d'empereur, l'empereur c'est moi. Et il se fait d'ailleurs appeler en turc Kaiserirum, hein, donc l'empereur des Occidentaux, des Romains, etc. Et je vous l'ai mis ici parce qu'il est symptomatique finalement de l'importance de cette thématique-là dans l'histoire de l'Europe déjà à cette époque-là, parce que ce n'est pas une peinture qui a été réalisée par un peintre ottoman pour être suspendue dans le palais de Topkapı à Istanbul. C'est le grand Gentile Bellini, un grand portraitiste de la fin du XVe siècle, qui est allé, ou qui a peint plutôt, l'empereur ici, en s'inspirant d'ailleurs, c'est pas évident sur la photo, mais c'est ce que nous disent les critiques, d'un portrait qui avait été fait à l'époque aussi, par pure imagination, bien évidemment, d'Alexandre le Grand. Donc il y a cette association entre Alexandre le Grand et ce sultan qui conquiert la terre et qui le dit très clairement, après avoir conquis la Rome orientale, Constantinople, que sa prochaine étape, ce soit la Rome occidentale. Donc il y a cette volonté-là que Mehmed II n'arrivera jamais à réaliser, parce qu'il meurt plus tôt, mais que son petit-fils, le fameux Soliman le Magnifique, va reprendre. Hein. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut jamais négliger. Alors, je vous ai proposé ici, et puis un texte de 1511 qui signale, si vous voulez, cette représentation, disons, d'une situation, disons, de crise et de fin des temps, puisque, et qui illustre aussi, et peut-être surtout, le fait qu'à cette époque-là, on scrute les signes que pourrait envoyer Dieu à la chrétienté. Et parmi ces signes, ça a été assez étudié, vous avez ce que l'on appelle les monstres. En fait, il s'agit la plupart du temps d'enfants mal formés qui viennent au monde et, bien évidemment, qui surprennent les contemporains et dont on va étudier les malformations pour essayer d'y déceler un message divin. Donc on n'a pas le souci médical de comprendre pourquoi c'est comme ça, mais on a le souci religieux de comprendre pourquoi c'est comme ça, c'est-à-dire quel est le message de Dieu. Et vous voyez, ça c'est un élément aussi important quand on veut comprendre cette époque-là, c'est de se remettre véritablement dans ce contexte pour saisir comment on perçoit un certain nombre de réalités que nous saisissons totalement différemment aujourd'hui. Alors, qu'est-il dit? Donc, ce monstre est né à Ravenne, hein, on n'a pas exactement les détails de la distance, mais ce monstre fut produit sur Terre du temps que toute l'Italie était enflammée de guerre. Il s'y trouva quelques hommes doctes et célèbres qui commencèrent à philosopher sur la figure monstrueuse, lesquels disaient que par la corne. Alors, vous voyez l'image sur votre droite, malgré les petits dessins, enfin malgré
Oui,
vous voyez, hein. Donc c'est une représentation de l'époque, hein, que je vous ai mis là, et sur sa figure, lesquels disaient que par la corne, hein, ici, était par les ailes la légèreté et inconstance, par le défaut des bras le défaut de bonnes œuvres, par le pied ravissant, hein, donc c'est-à-dire ce pied cette patte d'aigle, pour le dire comme ça, rapine, usure et avarice, par l'œil qui était au genou, l'action des choses terrestres, par les deux sexes, la sodomie, et que pour tous ces péchés qui régnaient de ce temps en Italie, elle était ainsi affligée de guerre. Mais quant à... Alors, ça, c'est tout l'aspect négatif, hein. Donc, on essaye de repérer ce que Dieu veut nous montrer du doigt, ce qui ne marche pas, hein. Donc, la corne, qui est, etc., qui est l'orgueil, l'ambition, voilà, les ailes, la légèreté, etc. Donc là, vous avez toute une série de choses qui sont censées être montrées du doigt, à la fois chez les princes, dans l'ordre ecclésiastique, mais aussi globalement dans la population. Mais on y cherche aussi des éléments positifs. Mais quant à l'epsilon, c'est donc le Y, hein, epsilon, c'est le Y en alphabet grec, et la croix, c'était deux signes salutaires. Car l'epsilon signifiait la vertu, et puis la croix qui dénotait que s'il voulait se convertir à Jésus-Christ et songer à sa croix, c'était le vrai remède de recouvrer la paix et de modérer l'ire du Seigneur qui était enflammé contre leur péché. Alors cette représentation, elle est intéressante parce que est publiée en 1511. Il y a question de la conversion au Christ. Et 1511, c'est l'année où Martin Luther, le futur réformateur d'Allemagne, est censé avoir traversé l'Italie et être passé pas loin de Ravenne. Donc vous avez là, sans doute, un texte et une image représentative de la situation dans laquelle il évoluait lui-même. Alors, face à cette situation de crise sur laquelle je me suis beaucoup étendu, c'est peut-être un signe que nous traversons, j'en sais rien. Vous avez des tentatives de réforme qui ne sont pas celles de la réforme protestante, mais qui jouent un rôle très important. Et en particulier, vous avez la tentative que l'on a appelée l'humanisme. Alors, le concept, le mot humanisme aujourd'hui, moi je fais l'exercice chaque fois avec mes étudiants, on pourrait le faire d'ailleurs ici. Qu'est-ce que vous mettez sous humanisme? La plupart du temps, on vous dit le fait d'insister sur l'homme, l'être humain, sur sa valeur intrinsèque, etc. Alors, historiquement, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, pour le XVIe siècle en tout cas. Déjà, le concept d'humanisme, du terme humaniste, l'humanisme, c'est un mot qui apparaît au XVIIIe siècle pour la première fois, mais qui n'est véritablement entré dans l'usage de la langue française qu'au XIXe siècle, à partir de 1830. Avant, disait « je suis un humaniste », ça ne disait pas grand-chose à grand monde. On l'utilise parmi les historiens pour définir non pas le souci de l'homme, la primauté de l'être humain, etc., mais pour définir une réalité bien plus précise au XVIe siècle qui est liée à l'insistance de certains érudits sur un retour à l'antiquité pré-chrétienne. Alors, ce n'est pas sans lien cet usage du mot humaniste du siècle et l'usage actuel, parce qu'en fait, ces auteurs, ils se basent sur un texte de Cicéron, le philosophe de l'Antiquité, hein, contemporain et adversaire de Jules César, qui, dans un traité qui s'appelle De l'orateur, définissait ce qu'il fallait pour qu'un homme, un citoyen, et ce qu'il rangeait derrière ce qu'il faut être, ce qu'il faut être et faire pour être un vrai citoyen et un véritable être humain, un véritable homme, eh bien, c'est de connaître la langue, de connaître la façon dont on va s'exprimer et de connaître la culture et dans laquelle l'on évolue, à savoir à l'époque la culture romaine. Et donc, la conviction qui anime les humanistes du XVIe siècle, c'est que pour devenir véritablement un être humain et un citoyen, il faut connaître la culture dans laquelle on se trouve. Et cette culture, en Europe, disent les humanistes, c'est la culture gréco-latine. Il faut retrouver cette culture gréco-latine sans nier la culture chrétienne. Ils ne sont pas du tout opposés, pour la plupart d'entre eux, au christianisme. Au contraire, hein, ce sont des humanistes chrétiens qui estiment que rapprocher la culture antique et et son idéal du christianisme, ça n'est pas du tout contradictoire. Et donc, ce souci de retour aux sources antiques, ce souci de valoriser la culture européenne, pour le dire comme ça, gréco-latine et chrétienne, il est très présent dans le monde des réformateurs protestants, dont on peut considérer que la plupart sont marqués par l'enseignement humaniste et sont des humanistes. Luther, ça n'a pas été beaucoup souligné par l'historiographie, humaniste. Ce sera le cas de Calvin, le réformateur de Genève, qui a une formation d'humaniste à la base, et qui commence d'ailleurs sa carrière littéraire comme humaniste en éditant Sénèque, philosophe antique. C'est le cas aussi, et surtout peut-être, d'une autre figure dont on parle moins, mais qui est le bras droit de Luther, Philippe Melanchthon. En Allemagne, il est l'auteur de l'Allemagne. C'est lui qui véritablement a permis le développement de ce qu'a été ensuite l'université allemande et l'université telle qu'elle a fini par se développer jusqu'à nos jours. Hein. Le modèle de Humboldt ne serait pas dans stable sans l'enseignement de Melanchthon. Et à la racine de cet engagement pour le développement de l'éducation universitaire, chez Melanchthon, vous avez cet héritage humaniste. Alors cet héritage humaniste, il va être aussi très important dans le développement du christianisme, avec en particulier le travail d'Erasme de Rotterdam, que vous avez ici, avant, c'est ce que nous mentionnons aussi. Mais Erasme, au fond, c'est celui qui va appliquer l'enseignement de des humanistes à la Bible. Au fond, ce qu'il dit, c'est que si nous voulons réformer le christianisme qui est en train de s'effondrer dans le contexte que j'ai décrit, il faut retourner aux fondamentaux. Et il faut retourner, comme l'Europe doit retourner à ses fondements gréco-latins et judéo-chrétiens, le christianisme, lui, doit retourner à ses fondements historiques, c'est-à-dire à la Bible. Or, la Bible, à cette époque-là, on la lit majoritairement dans la langue latine, qui est la lingua franca de l'Europe occidentale, dans la traduction qu'on appelle la Vulgate, qui n'est pas la seule des versions latines qui existent, il y en a d'autres, mais disons, on ne lit pas les sources dans leur langue. On va estimer qu'il faut retrouver ce texte dans sa langue originale pour ensuite pouvoir le retraduire dans la langue des peuples d'Europe pour lancer ce mouvement intérieur de réforme du christianisme. C'est ce qu'il dit dans ce texte, hein, disant que si le paysan à sa charrue pouvait chanter les versets, pouvait en moduler un passage, si le voyageur allégeait la route avec des récits de ce genre. C'est-à-dire que c'est normal que l'Europe s'effondre, trouve Erasme, parce que l'on a perdu le contact avec le texte même qui fonde le christianisme, à savoir le texte biblique. Et ça va marquer les réformateurs. C'est très important de le dire parce qu'aujourd'hui, souvent, on dit « Ah, c'est grâce à la réforme que dans le christianisme, on a retrouvé la Bible. » Mais ça date d'avant. Erasme écrit ce texte ici et publie son Nouveau Testament grec, qui va donc servir ensuite à des traductions, hein, que les réformateurs, d'ailleurs, vont entreprendre sur la base de cette édition du grec, en 1516. On est avant Luther, on est avant la réforme protestante, et qui est ancré aussi dans quelque chose de plus ancien encore, qui a une volonté de retrouver cette Bible. Hein, ce n'est pas le premier Erasme, c'est le premier sans doute qui veut retourner au texte d'origine en grec, en latin, etc., en grec et en hébreu, par-delà le latin. Mais la volonté de lire la Bible, de s'intéresser à la Bible, elle est liée à un autre phénomène que je n'ai pas encore abordé, mais qu'il faut que j'aborde même rapidement, mais qui est central et fondamental, c'est l'imprimerie. Hein, avec la découverte de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, on est dans une révolution des médias qui est totalement identique, à bien des êtres, pas totalement, c'est jamais totalement identique, mais très fortement identique à ce que nous connaissons avec Internet. Hein, l'invention de l'imprimerie, je peux revenir si vous voulez sur ces éléments-là un peu plus en détail, mais l'invention de l'imprimerie, comme Internet aujourd'hui, ça change totalement l'ensemble des rapports qui s'est qui se sont jusque-là établis dans la société. L'émergence de ce qu'on va appeler l'opinion publique. Avant l'imprimerie, il n'y a pas d'opinion publique, parce qu'on ne peut pas atteindre les gens. Avec l'imprimerie, c'est possible, etc. Et donc, émerge avec cette invention de l'imprimerie qui permet une plus large diffusion des textes, aussi leur conservation, etc., qui permet aussi, d'ailleurs, l'information. Les journaux vont commencer à émerger bientôt à ce moment-là, enfin, à la fin du XVIe siècle. La diffusion de l'imprimerie émerge aussi l'idée que finalement, ces prêtres, ces prédicateurs qui nous parlent du texte biblique comme ça, un peu de manière lointaine, dont on ne sait pas trop ce que c'est, au fond, on pourrait les imprimer, les diffuser et les lire. Et donc Erasme s'inscrit dans ce mouvement, et vous avez un développement exponentiel à la fin du XVe siècle, plus imprimé à la fin du XVe siècle, loin devant toutes sortes d'autres textes, et ça témoigne d'une réalité qui va être renforcée par Erasme et qui va devenir effective avec la réforme protestante, même si ce n'est pas forcément l'intention de tous les réformateurs, à savoir, comme le disait le regretté Jean de Lumeau, un grand historien de la Réforme, l'Église de France, avec la diffusion de la Bible, le prêtre devient moins nécessaire. C'est-à-dire que le rôle d'intermédiaire que joue le prêtre entre le fidèle et Dieu, ce rôle d'intermédiaire-là, il va s'effondrer, ou disons, il va s'amenuiser dès lors que le fidèle a accès directement à Dieu en lisant le texte biblique. Au fond, c'est ce que Dieu transmet à l'humanité, s'inscrit dans la Bible, pourquoi faut-il qu'il y ait un prêtre à côté de la Bible pour transmettre ça, à lire le texte. Alors, c'est schématique, c'est un peu exagéré, mais c'est significatif d'un mouvement qui s'initie et qui n'est pas du tout lié à la réforme elle-même. La réforme, elle s'inscrit dans ce mouvement, elle va l'accentuer, elle va même le consacrer, on peut dire ça comme ça, mais elle n'en est pas à l'initiative. Voilà donc pour ce mouvement humaniste qu'il fallait bien évidemment présenter. Et donc j'en viens maintenant, comme chaque année, pratiquement à la fin de l'heure qui m'est impartie, à la réforme. Vous verrez qu'on peut aller aussi plus vite, parce qu'on a le contexte. Donc dans ce contexte d'angoisse, dans ce contexte de peur de la mort, de questionnement sur le salut, de questionnement sur que peut l'institution religieuse pour moi, émerge un homme qui s'appelle Martin Luther. Qui ne s'appelle pas Martin Luther, à la base il s'appelle Martin Luther. Il change de nom en 1517, l'année de la réforme, qui est retenue, disons, pour marquer le début de la réforme protestante, on a fêté les 500 ans il y a 3 ans. Il change de nom pour s'appeler Martin Eleutheros, ou Martin Luther, qu'on va garder pour le définir. Et Eleutheros, en grec, c'est celui qui a été libéré. Parcours de Martin Luther, c'est un parcours de libération, ou en tout cas de liberté. C'est pas pour rien qu'en 1520, il y a 500 ans, pile poil, il publiait, vers la fin de l'année, d'ailleurs à peu près maintenant, fin octobre, début novembre, un traité de la liberté du chrétien. On peut considérer que tout le parcours de Luther, il, très rapidement, il est né en 1483, en Saxe, en Allemagne actuelle, dans la ville d'Eisleben, il grandit à Eisenach, autre ville de Saxe, c'est la patrie de Jean-Sébastien Bach, d'ailleurs, ils sont nés tous les deux dans la même ville, donc c'est quand même assez intéressant, très vite, il se dirige vers une carrière religieuse. C'est pas ce que voulait son père. Son père voulait qu'il soit avocat ou juriste, mais confronté à la mort d'un ami étudiant au lendemain des examens de fin de première année, dans le contexte d'une épidémie d'ailleurs, là où aussi des échos aujourd'hui, Luther, semble-t-il, pour échapper à l'angoisse que procure chez lui une mort subite, une façon dont on meurt, extrêmement important à cette époque-là, la mort, ça se prépare, et quand on sent que l'heure est venue, il faut se préparer, il faut se recentrer sur soi-même, sur son rapport à Dieu, faire pénitence, recevoir l'extrême onction, etc. Toute une littérature à cette époque-là qui a été étudiée par Michel Bovel sur l'accompagnement des mourants. L'ami de Luther est mort sans pouvoir faire ça. Et donc, il était en état de péché. Et c'est ça que Luther craint. Donc Luther, craignant cela, se réfugie dans un ordre monastique et entame une carrière, disons, à la fois religieuse, mais aussi universitaire, puisque très vite on mesure ses compétences et on va l'île de Wittenberg, où il y a une université. Très vite, il monte donc les échelons, hein. Il est numéro 3 de son ordre en Allemagne, c'est un ordre extrêmement important, les Augustins, et dans cet ordre, donc il est numéro 3, il est vicaire provincial, il a sous sa charge une quinzaine de couvents, donc on ne peut pas dire que c'est le petit moine tout seul dans sa cellule, ça aussi l'historiographie protocole et du fin fond de sa cellule de Wittenberg, il a défié l'institution, le pape, non, c'est quand même un personnage, et au moment où il prend la parole, qui est bien établi, hein, c'est un professeur d'université, qui dirige un tiers de son ordre monastique en Allemagne, et un ordre monastique à l'époque, c'est quelque chose, hein, il faut bien se représenter ça. Mais malgré cette ascension religieuse, théologique, institutionnelle, c'est un homme en crise, parce qu'il ne parvient pas à trouver la réponse à la question de savoir comment il peut apparaître juste aux yeux de Dieu. Dans ce contexte de grande angoisse face à la mort, la question qui agite tout le monde, comment être sûr de mon salut? Comment gagner cette miséricorde de Dieu? Comment être sûr que Dieu... comment être sûr d'une part que je fais ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, ça c'est le versant humain, et comment être sûr de l'autre côté que ce que Dieu pense de moi est la bonne chose, c'est pas, comment être sûr que Dieu agrée au fond ce que je choisis. Et ça, Luther, malgré tous ses efforts, son engagement dans son monastère, dans sa communauté religieuse, malgré la mortification de sa chair à laquelle il procède, hein, on sait que c'est un ordre où on se flagelle, on pratique, disons, des veilles de 48 heures sans dormir, etc., pour mortifier sa chair. Malgré tout ça, il n'arrive pas que Dieu est bienveillant à son égard. Et donc, c'est au pire de l'une de ces crises qu'il va découvrir dans le texte biblique dont il est censé réaliser l'enseignement, hein, le commentaire dans sa chaire de théologie à Wittenberg, qu'il trouve un texte ici qui a été écrit beaucoup plus tard, donc toujours prendre ça avec des pincettes, mais en gros, les historiens sont d'accord pour dire que ça reflète quand même à peu près l'essentiel de ce qui s'est passé, peut-être pas de manière ponctuelle, mais plus évolutive. Or, moi qui vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu, avec la conscience la plus troublée, et ne pouvais trouver la paix par ma satisfaction, je haïssais d'autant plus le Dieu juste, et Dieu comme juge, hein, qui punit les pécheurs, et je m'indignais contre Dieu, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. Donc, il en veut à Dieu, parce que Dieu ne lui dit pas ce qu'il doit faire et il ne dit pas à Luther si véritablement Luther fait ce qu'il faut. Jusqu'à ce qu'enfin, Dieu ayant pitié de moi, et alors que je méditais jours et nuits, je remarquais l'enchaînement des mots de saint Paul dans l'Épître aux Romains, Romains 1, 17, à savoir « La justice de Dieu est révélée en lui, l'Évangile, comme il est écrit, le juste vit de la foi. » Alors, je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la science évangile est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vit de la foi. Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis. Alors ça, c'est un texte qui ne nous parle pas forcément aujourd'hui, hein. On ne voit pas forcément ce que ça signifie, mais pour l'époque, c'est une révolution absolue. Le discours de l'Église médiévale, globalement, hein, toujours des exceptions, globalement, c'est de dire « faites tout votre possible pour être sauvé. Faites tout ce que vous avez en vous. » C'est ce qu'on appelle la doctrine du « facere quod in se est », et Dieu vous récompensera. Il se peut que vous ne fassiez pas exactement ce que Dieu attend. Mais au fond, Dieu vous récompensera d'avoir fait votre maximum. Et donc cette théologie-là, c'est une théologie où il faut être proactif. Il faut être actif, il faut se jeter en avant pour accomplir quelque chose. Et ce que Luther découvre, en lui-même d'abord, puis ensuite en lisant le texte, c'est qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'est jamais satisfait, on se demande toujours si c'est suffisant. Et dans un deuxième temps, ce qu'il découvre là, eh bien, c'est que ce que Dieu attend, ce n'est pas que nous agissions juste, mais c'est que nous acceptions qu'au fond, le salut, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Et ce que Dieu attend, ce n'est pas d'être un chrétien hyperactif en faisant toutes sortes de choses, c'est d'avoir confiance en lui. Et ça, c'est un élément qui est très présent dans la théologie, comme confiance, Vertrauen en allemand. Hein. Fiducia, d'ailleurs, et confiance, et fidesse, c'est la même racine, hein, c'est la même famille de mots que, bien évidemment, Luther va mettre en avant. Et autrement dit, la révolution qu'opère Luther, c'est de dire être chrétien, ce n'est pas faire, ce n'est pas accomplir des choses. Mais c'est... Et ce qui compte, ce n'est pas de considérer dans ce contexte-là Dieu comme un juge qui attend de pouvoir nous dire « tu n'as pas fait ceci ou tu n'as pas fait cela », mais de considérer Dieu comme quelqu'un en qui je dois précisément avoir confiance. C'est-à-dire je dois le voir comme quelqu'un qui me regarde avec bienveillance. Dès lors, donc la révolution encore peut-être plus profonde dans la représentation qui va se faire la modernité religieuse, c'est celle-là, à savoir une individualisation du rapport à Dieu. Chez Luther, il n'y a plus le tiers, non pas payant, mais si vous voulez, le tiers relationnel qui est l'Église, qui passe peut-être un peu par l'Écriture, mais qui instaure un face-à-face avec Dieu. Et c'est deuxièmement un rapport qui n'est pas du tout un rapport de comptabilité religieuse et morale sur je fais ce qu'ils font, etc., donc je serai récompensé, mais qui est un rapport proprement relationnel. Et ça, c'est un élément extrêmement important de la théologie de Luther, c'est qu'elle se définit principalement par la relation. La théologie, c'est pas une science de l'être physique, c'est pas non plus une morale, une éthique d'abord, mais c'est une relation à Dieu qu'il faut toujours reprendre, reclarifier, parce qu'elle est toujours faite dans
l'idée
de doute, d'incompréhension. Et donc, vous avez une pour le dire avec des gros mots philosophiques, vous avez une du rapport à Dieu. On le conçoit désormais comme l'autre de la relation. Hein. C'est très proche de ce que vous trouvez chez des philosophes juifs comme Martin Buber, par exemple, dans son fameux livre « Je et tu ». Dieu, c'est le grand « tu » de la relation. Voilà donc pour ce qui est de parler toute une semaine. Je vais aller très rapidement maintenant. Donc, cette révolution théologique, elle va se heurter de plein fouet à une pratique religieuse courante et tout à fait banale, hein, pour le dire ainsi, de l'Église médiévale, qui est celle des indulgences. Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence? Alors on dit souvent d'aller au paradis, c'est faux, dans l'Église ça n'a jamais été ça. C'est une pratique qui permet, en échange, pour le dire ainsi, d'une œuvre pieuse, de sortir du purgatoire. Alors le purgatoire, c'est dans l'Église médiévale ce lieu entre le ciel et l'enfer où les âmes qui ne sont pas très propres mais qui ne sont pas quand même complètement dégoûtantes peuvent se purifier, d'où le terme purgare, pour atteindre le paradis. Et vous pouvez y passer des centaines et des centaines d'années dans ce purgatoire. Donc on va considérer que peut-être il faudrait que ça aille plus vite. Et c'est là que l'Église va développer ce concept d'indulgence, c'est-à-dire que si, par exemple, vous partez à la croisade, si vous faites un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, que sais-je, vous pouvez dans le purgatoire. Et donc, progressivement aussi, on se dit, c'est pas inintéressant sur le plan financier. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bon, vous faites une œuvre pieuse, puis cette œuvre pieuse, vous pouvez l'accompagner d'une aide à l'Église. Et donc, progressivement, au milieu du 15e siècle, un business, il faut le dire, hein, c'est quelque chose de très rentable. À l'époque de Luther, c'est de moins en moins rentable, il faut bien le reconnaître, mais on en a toujours besoin. Et en particulier le pape de l'époque, Léon X, qui veut financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Hein, la basilique Saint-Pierre de Rome, à la fenêtre de laquelle le pape apparaît parfois, encore ou là. Et c'est une des causes qu'on ne peut pas ignorer de la réforme protestante, parce que pour favoriser cette construction absolument phénoménale, le pape va lancer une campagne de vente d'indulgence, et en particulier en Allemagne. Et en Allemagne, ben, ça ne marche pas très bien le business, comme je vous le disais, et donc on en entreprend une campagne de com, hein, déjà à l'époque, avec un spécialiste de la com religieuse de l'époque, qui est un dominicain du nom de Tetzel. Et ce monsieur Tetzel, ben, il a un slogan, ce slogan qui répète à l'envi, c'est « Wenn das Geld in die Kasse klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt hein, ». En allemand, ça veut dire « Quand l'argent sonne dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire hein, ». Il faut payer, brave gens, et vous irez directement au ciel sans vous ennuyer dans l'au-delà, à souffrir un petit peu dans le purgatoire. C'est totalement en désaccord avec la doctrine officielle de l'Église, hein, il faut bien être clair. L'Église n'a jamais dit « il suffit de payer, puis on évite le purgatoire ». Mais enfin, c'est la communication. Vous voyez, entre le droit et la communication, c'est assez intéressant, cette discrépance. Hein. Et c'est ça qui va créer toute la difficulté à l'époque de Luther, parce que pour lui, ça télescope complètement sa théologie qui insiste sur la grâce, sur la gratuité du rapport à Dieu. Et donc, très vite, il va publier ses 95 thèses, dans lesquelles, c'est le texte qu'on a gardé à mémoire, hein, qui est fondateur de la réforme protestante, dans lesquelles il s'attaque à cette pratique, l'Évangile. Il y a un versant aussi social dans sa critique, parce qu'il considère que beaucoup de gens sacrifient leurs faibles économies pour ce qu'ils considèrent lui comme une grosse arnaque. Donc, du coup, mieux vaut donner à manger à ses enfants que de s'acheter une indulgence. Et bien évidemment, ben, le business de l'Église en Allemagne capote à cause de cette intervention, dont il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si médiatisée. Hein. Très vite, les thèses de Luther contre les indulgences sont diffusées, réimprimées, commentées, etc. À tel point que début 1518, là on est à fin 1517 quand il les publie, début 1518, il est déjà obligé de s'expliquer pour dire « Oh, mais je n'ai pas voulu m'en prendre à l'Église, il y a des gens qui disent que j'ai fait ça contre l'Église, mais regardez mon texte, ce n'est pas le cas, etc. » Puis en fait, en expliquant pourquoi il ne s'oppose pas à l'Église, bah, il creuse en fait sa propre tombe, si je puis dire, parce que il en rajoute, et il explique tellement que finalement c'est d'autant plus critiqué. Très vite, le pouvoir pontifical va comprendre qu'il y a un vrai problème, d'abord parce que financièrement ça se passe mal, mais aussi parce que ces thèses, on les diffuse. Mais encore plus parce que, c'est une des choses qu'on va très vite réaliser, c'est que quand vous dites, c'est ce qu'il fait dans les 95 thèses, quand vous dites le seul trésor de l'Église, c'est le Christ et sa parole, qui sont les témoins de la grâce de Dieu et de la gratuité du salut, eh bien, vous dites aussi que, au fond, il n'y a pas besoin de l'Église et de sa hiérarchie. Mais souvenez-vous ce que je vous disais, hein, l'Église, c'était l'instance de salut, l'institution de salut qui diffuse le salut parmi les fidèles. Mais si vous dites c'est dans la relation unique au Christ que se trouve l'espoir du salut, et si vous dites aussi le seul trésor de l'Église, c'est cette Église en tant que telle, comme moyen d'accéder au salut n'est plus nécessaire. Et alors si vous ajoutez à ça, comme il le fait, que le salut est gratuit et qu'il n'y a pas besoin de bonnes œuvres au sens des indulgences, etc., c'est tout l'édifice ecclésiastique tel qu'il est conçu depuis plusieurs siècles qui s'effondre. Vous avez un homme à Rome qui s'appelle le cardinal Cajetan, dont on a retrouvé il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques dizaines d'années, les notes de lecture des premiers textes de Luther, qui dit que c'est une catastrophe pour l'Église. Si cet homme continue à parler, il n'y aura plus d'Église. Et donc très vite, on va essayer de faire taire Luther, et puis progressivement, si vous voulez, cette volonté de le faire taire va le faire parler encore plus, et de fil en aiguille, de controverse en controverse, on en arrive à l'été 1520, donc il y a 500 ans tout juste, quand une bulle papale, c'est un texte officiel romain, atteint Luther, en fin octobre d'ailleurs, je suppose, donc maintenant, pour lui dire « si tu ne te rétractes pas, tu seras excommunié ». Et la réponse de Luther, elle a lieu le 10 décembre 1520. Luther brûle cette bulle et excommunie lui-même le pape. Et donc, c'est la rupture. En janvier 1521, paraît une deuxième bulle romaine, la bulle Necet Romanum Pontificem, signée aussi par le pape Léon X, qui excommunie Luther et tous ses héritiers, tous ses successeurs et tous ses disciples. Et donc, c'est la rupture au sein de la chrétienté occidentale, puisque très vite, derrière Luther, vont s'agréger des princes, des religieux, des territoires, et que progressivement, eh bien, l'Europe choisit son camp. Dans certaines régions, la bascule se fait très vite, dans d'autres, ce sera beaucoup plus tardif, et puis dans certaines régions, ça va conduire à une réalité qui refait surface aujourd'hui, d'une certaine façon, qui est celle des guerres de religion. Voilà, je parle déjà depuis maintenant. J'ai l'intention de vous parler encore de deux, trois autres figures. Hein. Je peux le faire si vous le souhaitez. Zwingli et la réforme suisse, les anabaptistes, dont j'ai déjà fait allusion. On peut aussi parler de Calvin. Il y a deux choses, je le ferai volontiers si vous voulez. Il y a deux choses que j'aimerais souligner. C'est d'une part l'importance de ce qui est en train de se passer avec Luther et la réforme pour une question qui est centrale aujourd'hui, hein, c'est la liberté de conscience, qui est très fortement liée à la liberté d'expression. C'est que Luther, c'est le premier qui utilise dans le langage, dans la langue allemande, avant le mot conscience, on l'a en latin, conscientia. Et ce mot latin, c'est au fond la capacité morale que j'ai à estimer si je fais bien ou mal. Hein, c'est cette petite voix, hein, dans Tintin, c'est l'ange ou le diable de Milou qui dit c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est la conscience médiévale. Et pour Luther, si vous voulez, c'est plus les petits anges ou les petits diables qui disent c'est bien, c'est pas bien. La conscience, c'est la parole intérieure de Dieu. Donc là, il y a ce qui évolue aussi complètement. Et donc la première fois que ce mot est utilisé en allemand avec ce sens très différent du premier, c'est lorsque Luther est appelé devant l'empereur Charles Quint, hein, vous avez ici donc l'empereur qui siège, Luther est ici, et on lui dit: Martin Luther, si tu ne révoques pas tes idées, tu auras des problèmes. Et Luther, donc on est en 1521, un peu après son excommunication, réfléchit, je la fais vite, hein, c'est beaucoup plus long que ça, et à la fin donc, de l'entretien, ou de sa réflexion, il tient un discours devant l'empereur, sachant qu'il peut perdre la vie hein, à la suite de ça, et il dit: à moins d'être convaincu par le témoignage de l'Écriture et par des raisons évidentes, car je suis le concile, puisqu'il est établi qu'ils se sont trompés et contredits, je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités. Tant que ma conscience, parce que Wissen, hein, est captive de la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux rien rétracter donc, de ce que j'ai écrit, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen. Ajoutez, je me tiens ici, je ne peux pas faire autrement, etc. C'est ce que vous avez sur le texte, ici, et tout en bas, hein, en allemand. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Ce moment-là, si vous voulez, pour les contemporains, n'a pas eu beaucoup d'écho. Mais par la suite, on y est revenu, et on y a vu, en partie à raison, mais en partie à tort, le moment d'émergence de la conscience individuelle. Et c'est un moment important, effectivement, dans la mesure où c'est sans doute la première fois que le recours à sa conscience, c'est-à-dire à cette réalité profonde de l'être humain, permet à un individu de dire à une institution et à ses représentants, je refuse ce que vous m'imposez. Ça, c'est neuf, c'est incontestable. Ça n'a pas de précédent, tel quel. En revanche, ce qui n'est pas moderne dans ce passage, dans ce texte, c'est ce que vous avez quand Luther dit que sa conscience est captive de la parole. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose qui est au-dessus de la conscience, mais ce n'est plus l'institution religieuse, ce n'est plus le souverain, ici, Charles Quint, c'est la parole divine. Et c'est ça qui va progressivement, disons, poser un certain nombre de problèmes, parce que cette parole divine, qu'est-ce qui vous assure que c'est ça et pas autre chose, n'est-ce pas? Luther dira, c'est écrit dans la Bible, mais la Bible peut l'interpréter d'une manière différente. Donc, va émerger à partir de cette première formulation-là l'idée que la conscience, elle ne peut pas dépendre d'une autre autorité, que ce soit le pape, que ce soit l'empereur, mais aussi un texte biblique, un texte de référence, un texte religieux. La conscience, elle est autonome. Et ça, ce sera l'acquis de toute une histoire qui est très longue, hein. Ça, coup de grands découpages tout à fait arbitraires, mais il se passe bien quelque chose là. Savoir que dans cette première manifestation de la conscience, qui n'est pas encore une conscience autonome, c'est-à-dire qui ne donne pas sa propre loi, vous avez l'émergence progressive de ce qui va être au fond thématisé par un philosophe protestant, d'ailleurs de la fin du XVIIe, Pierre Bayle, qui est cette dimension proprement première, centrale, inaliénable de la conscience individuelle. Et ça, c'est dans le prolongement de Luther. Luther, on lui aurait dit, chaque conscience individuelle est autonome, elle décide elle-même, etc. Il aurait été horrifié, très clairement. J'ai un collègue allemand qui est lui-même luthérien, qui s'appelle Thomas Kaufmann, qui est un très grand spécialiste de Luther, grand historien. Un jour, il m'a dit, tu sais, Luther, c'était un taliban, hein, dans sa façon d'envisager la question de la vérité. Ce qui n'est pas faux. Mais tout le monde était taliban, si vous voulez, à l'époque. C'est-à-dire que la vérité est une, et c'est moi qui l'ai, forcément. Mais en même temps, il y avait dans sa pensée, dans sa réflexion religieuse, dans sa philosophie religieuse, des éléments qui, involontairement, vont présider à l'émergence d'un certain nombre de réalités modernes dans le champ religieux. Et ces éléments, ils sont nombreux, on aurait pu citer ici Martin Bucer, l'Europe, c'est un autre aspect de la modernité du protestantisme, enfin disons du rapport du protestantisme à la modernité, hein, c'est cette pensée européenne, très vite, une conscience européenne, et vous avez ça ici chez, c'est pas un hasard, c'est le réformateur de la ville de Strasbourg, hein, au XVIe siècle, qui est très proche de Luther, qui va être un des maîtres de Calvin, et qui un jour écrit à une de ses correspondantes, Margaret Blaher, qui avait pesté contre ces sales français, et il lui écrit « Je ne puis t'accorder en conscience, ma chère mère, que tu considères le nom de français comme crime, les Allemands, les Italiens, les Espagnols et tous les autres. En soi, ils sont tous perdus, mais en Christ, ils sont tous frères. Et cela, le Père ne l'a pas donné à certains ou à d'autres, mais c'est le propre de tous les peuples. » Et ça, c'est une spécificité de Bucer. Luther était très, très germano-centré, très allemand, mais avec Bucer, et aussi avec Calvin d'ailleurs, je peux vous parler si vous le souhaitez, la réforme prend une dimension européenne. Et c'est une toute autre Europe qui est pensée, si vous voulez, par les réformateurs, que l'Europe de l'Église catholique. C'est une Europe qui insiste plus sur les spécificités, sur une vision fédéraliste aussi, hein, avant la lettre, bien sûr, chez les réformateurs comme Bucer et Calvin. Alors, la réforme et la modernité, c'est quelque chose, je vous l'ai dit, hein, qui au XIXe siècle a beaucoup fait réfléchir les penseurs, a été très marquante pour beaucoup de grands penseurs, philosophes, mais aussi de beaucoup de politiciens, et y compris de politiciens de la France laïque. Et j'aimerais, pour ce faire, terminer. Je croyais bien que ça n'a aucun rapport hein, avec l'actualité, en particulier le texte que l'on a lu hier dans les écoles. C'est un texte que je propose à chaque fois que je donne ce cours. C'est un texte de Jaurès. Dans sa thèse de doctorat, alors je vous cite la version française, mais il faut savoir que Jaurès, avait écrit sa thèse de doctorat en latin. Ça se faisait encore à l'époque. Et cette thèse de doctorat s'appelait « De origine socialismi », des origines du socialisme. Et il écrivait ceci. Elle était cette égalité parfaite et absolue. La disparition des laïcs soumis, des prêtres hautains, s'arrogeant certains rapports particulièrement amicaux avec Dieu. Quiconque est chrétien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Luther, c'est-à-dire a été baptisé au nom du Christ, a plein droit de lire, de commenter et de prêcher les paroles divines. Tout chrétien est prêtre. Lorsqu'à une époque récente, le suffrage universel fut décrété en France, beaucoup trouvèrent cette politique trop téméraire et comme monstrueuse. Combien Luther était plus audacieux, lui qui décrétait le sacerdoce universel. Parce que la question que se pose Jaurès, c'est quelles sont les origines du socialisme? Qui est le père du socialisme? Sa réponse, c'est que le père du socialisme, c'est Luther, parce que il a abattu, ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure, tous les rapports hiérarchiques pour instaurer un face-à-face entre le croyant et Dieu, au-delà de toute hiérarchie. Et donc ça vous montre cela. Je dirais la prégnance dans la culture occidentale, y compris française, socialiste, laïque, n'est-ce pas, de cette figure qu'est Luther, mais aussi plus largement de la réforme dans l'évolution de l'Europe vers la modernité. Voilà, je vous propose d'arrêter là parce que j'ai été déjà très long. Donc je redonne la parole, Xavier, pour la suite.